Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. À quelques jours des huitièmes de finale de Coupe des Champions, nous sommes aujourd'hui à La Rochelle, au centre d'entraînement du Stade Rochelet, pour rencontrer Grégory Aldrit. Bonjour Grégory.
Bonjour.
Le capitana en équipe de France, le bilan du tournoi à destination, la fin de saison avec La Rochelle et le huitième de finale samedi contre les Stormers. Voilà les thèmes que l'on va aborder. Et pour ça, je suis aujourd'hui avec les journalistes de l'équipe Yann Sternis et Maxime Brolin. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Crunch, c'est parti. Flexion, liée, jeu. Grégory, tu sors d'un tournoi à destination pas comme les autres, ton premier en tant que capitaine. Alors comment tu l'as vécu? Est-ce que ça a été une pression supplémentaire?
Non, ça n'a pas été une pression supplémentaire. C'est sûr que ça a procuré un petit peu plus d'engouement, ça m'a mis un peu plus en lumière. Mais ça ne m'a pas perturbé dans mon rôle. Je suis resté le même joueur que j'étais et j'ai gardé quasiment le même rôle. Donc là-dessus, c'était dans la continuité de ce qui se faisait. Donc voilà, c'était tout simplement un honneur et que du bonheur de pouvoir être capitaine du 15 de France.
Alors même si tu avais déjà été capitaine de l'équipe de France contre les Fidji en match de préparation, si on se rappelle bien, avant la Coupe du Monde, de débuter un tournoi dans la peau du capitaine, est-ce que tu as ressenti des émotions particulières, peut-être pendant les hymnes du premier match face à l'Irlande au stade Vélodrome?
Mais j'ai essayé de pas justement me rajouter trop autour de ce rôle de capitaine pour pas rajouter justement cette pression qui peut inhiber, qui peut empêcher de jouer librement. Donc comme je vous disais, j'ai essayé de rester le même en tout cas. J'avais déjà un rôle de leader en quelque sorte, donc j'ai continué là-dessus, bien entouré par tous les autres qui m'ont super bien aidé aussi. Donc voilà, au début j'ai essayé de profiter. C'est sûr que voilà, on sort en premier, on fait le toss avec l'arbitre, c'est quand même des moments spéciaux et j'ai voulu plutôt en profiter pleinement plutôt que de me rajouter une pression et du coup de pas retenir la belle saveur, quoi.
Est-ce que tu peux expliquer le fonctionnement de ce groupe de leaders, comment il fonctionne et notamment son rapport avec le sélectionneur?
On est 5 ou 6, ça dépend un petit peu en fonction des blessures, des absences. On a des échanges quasiment quotidiens ou vraiment assez réguliers avec Fabien et puis tout le staff. Donc voilà, chacun est libre de parler, chacun est libre de donner son ressenti, son opinion. Fabien nous écoute, il prend vraiment note de ce qu'on dit. Tout est fait avec bienveillance et pour que ça soit constructif pour le groupe, parce qu'on est tous là avec le même objectif, c'est gagner. Donc voilà, c'est des moments importants, parce que même des fois, on n'a peut-être pas tous le même ressenti. Et surtout, pour Fabien, voilà, ça, il a vraiment le reflet d'un groupe et pas d'une seule personne, le fait d'avoir ce fonctionnement à 5, 6, je ne sais plus à peu près le nombre.
Et toi, tu es un capitaine ou un leader qui dit les choses?
Ouais, bien sûr, si je ressens le besoin de le dire, je le dis. Après, c'est comme tout, il faut être constructif et il faut être bienveillant, il faut savoir prendre un petit peu de recul.
Est-ce que ton rapport avec Fabien a changé du fait de ton capitanat pendant le dernier tournoi? On l'a vu dans une interview qu'il a accordée à l'équipe la semaine dernière, que tu lui avais parfois parlé, tu lui avais proposé des changements. Il y a vraiment une confiance entre vous deux?
C'est sûr qu'il y avait peut-être un petit peu plus d'échanges. Parce que voilà, j'étais capitaine, donc il m'a partagé certaines décisions. Ensuite, moi, tout ce que je lui ai fait remonter, je me suis assuré d'abord que le groupe était en accord avec moi, parce que je ne veux pas être à sens contraire du groupe, c'est le pire qui pourrait arriver. Donc tout ce que je faisais remonter à Fabien, ça venait du groupe, quoi.
Ça veut dire qu'il faut être très connecté avec le groupe aussi, peut-être plus encore qu'avant?
Bien sûr, il faut être connecté et il faut avoir la confiance du groupe aussi. Je pense que le groupe commence à me connaître et me fait confiance là-dessus. Et moi, je commence à connaître le groupe aussi. Donc voilà, c'est tout le temps être raccord et pas se désolidariser, parce que sinon, voilà, on prend des décisions qui avantagent une minorité et ça ne peut pas marcher.
Sans forcément refaire un bilan de tournoi, maintenant il est passé, mais Fabien nous disait que la semaine avant le Pays de Galles, après un début de tournoi difficile, rappelons-le, avec une défaite contre l'Irlande, un match gagné en Écosse sur la fin, et le match nul contre l'Italie, auquel tu n'avais pas participé hein, parce que tu étais blessé. Il nous a raconté que ce début de semaine avant le Pays de Galles avait été déterminant, notamment cette réunion avec les leaders. Tu peux nous dire pourquoi, ou est-ce que tu es d'accord avec ça déjà, et tu nous dire pourquoi ça a été si déterminant pour la fin du tournoi?
Ça a été déterminant parce que déjà on fonctionne en groupe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un staff d'un côté et des joueurs de l'autre, donc on essaye de construire quelque chose tous ensemble, parce qu'on perd tous ensemble et on gagne tous ensemble. Ça a été déterminant parce que on a changé quelque peu, enfin un petit peu la méthode aussi. Vous avez pu le voir sur les entraînements de début de semaine où il n'y avait pas forcément une équipe face au reste du groupe. C'était important d'avoir ce petit changement pour aussi continuer à progresser, à travailler mieux, à resecouer tout le monde. Donc ça nous a fait le plus grand bien. Et honnêtement, on a fait une très très belle semaine d'entraînement. Et c'était important parce qu'en plus, on avait une semaine courte ensuite, parce qu'on avait une semaine de 6 jours, donc très peu d'entraînement pour préparer l'Angleterre. Donc c'était vraiment ce début de semaine face au Pays de Galles qui allait conditionner les 15 jours qui venaient.
Il y a eu une bascule entre le match contre l'Italie et celui contre le Pays de Galles. Est-ce que à ce moment-là, vous avez eu peur de finir dernier du tournoi ?
C'est vrai que avant d'aller jouer le Pays de Galles, je dis à Fabien, j'ai pas envie d'être dernier ce soir. Donc voilà, c'était un peu sur le ton de l'humour, mais pas trop, quoi, parce que c'est vrai que on n'a jamais envie d'être dernier du classement. Donc,
d'autant plus qu'on est capitaine.
D'autant plus qu'on est, capitaine, mais on a toujours envie de finir le plus haut possible. Donc c'était important de gagner pour nous, pour l'équipe de France, pour nos supporters, pour tout ce qu'il y a autour aussi. Donc voilà, c'était une belle satisfaction de gagner ce match au Pays de Galles et de rester dans la course en quelque sorte du haut de tableau.
Et de finir par une victoire contre l'Angleterre, c'est toujours appréciable.
Bien sûr, ça c'était l'objectif suivant. On voulait recréer une dynamique. On sait que pour recréer une dynamique, il faut au moins 2 victoires consécutives. On voulait avoir ces 2 victoires consécutives et enfin valider un petit peu tout le travail qui a été fait à l'entraînement.
Est-ce que tu sens qu'il y a une nouvelle histoire qui se crée dans cette équipe de France? Que la page Coupe du Monde est en train de se clore et qu'il y a une nouvelle histoire?
Pour être honnête, la page Coupe du Monde, elle sera terminée quand on aura disputé la prochaine Coupe du Monde et que j'espère on sera allé plus loin que les quarts de finale, donc on aura effacé ça. En tout cas, je pense qu'on a compris, en tout cas, maintenant. On a compris l'élimination, on a compris pourquoi on avait perdu cette Coupe du Monde. Et il faut aller de l'avant, il faut construire, il faut l'avoir dans un coin de sa tête, je pense, c'est important. Parce que quand on vit des moments comme ça, après on travaille dur pour plus sentir les mêmes, avoir les mêmes émotions qu'on a eues ce 15 octobre. Donc voilà, ça se transforme petit à petit en essence pour vraiment retoucher les sommets sur les 4 années qui arrivent.
C'est ce que tu as dit à tes joueurs à la fin du tournoi. Est-ce que tu as eu quelques mots particuliers pour l'équipe après l'Angleterre, par exemple, dans les vestiaires, avant de vous quitter?
Non, on ne fonctionne pas comme ça. On ne fonctionne pas avec un débrief, avec une réunion pour clôturer, parce que voilà, depuis 4 ans maintenant, et ça fonctionne plutôt bien. On ne referme jamais le chapitre équipe de France, en quelque sorte. Quand tout le monde va se retrouver pour l'Argentine, eh bien, ils seront dans la continuité de ce qu'ils faisaient au tournoi. Voilà, ils récupéreront le maillot et ils l'enfileront, et ainsi de suite pendant 4 années. C'est pas un début, une fin. Voilà,
c'est pas de chapitre pour toi?
Non, c'est parce que ce qu'on fait au tournoi, ça sert énormément pour la tournée d'été. Ce qui va être fait à la tournée d'été sert énormément pour novembre. Et le but, c'est pas de reprendre à zéro à chaque fois qu'on se retrouve. Le but, c'est d'être dans une continuité et une progression constante pour, comme je dis, retrouver cette place de numéro 1 mondial dans les 4 années qui arrivent, j'espère.
Quel bilan tu tires du tournoi? Positif, parce que vous terminez quand même deuxième, ou mitigé?
Pour moi, il ne peut pas être positif, parce qu'on est parti dans ce tournoi avec un objectif de finir à la première place, de le gagner. Donc à partir du moment où on finit second, c'est qu'on n'a pas rempli notre premier objectif. Maintenant, il a été hyper intéressant, parce qu'on n'a pas eu de répit, que ce soit mentalement, émotionnellement et physiquement. Ça a été un tournoi très très dur, mais je le redis, ça a été très intéressant parce que ça nous a peut-être aussi permis de grandir. On a passé 4 années sublimes où on n'avait pas vraiment connu ce petit coup de mou ou ces critiques. Je pense que ça fait grandir le groupe, ça forge en tout cas les hommes. Et voilà, et je trouve qu'on a plutôt bien répondu parce qu'on est resté dans le travail. Je pense qu'en tout cas en interne, on s'est pas trouvé d'excuses. On a su regarder clairement nos prestations, les analyser clairement et au final finir avec cette satisfaction des 2 victoires consécutives. Ça a été... Je trouve que ça a été une belle réponse du groupe, en tout cas.
Et comment tu as vécu ce coup de mou et ces critiques, toi, personnellement ?
Je ne vais pas dire que j'aime bien, mais j'aime bien quand les articles sont positifs, je les lis. J'aime bien quand on dit du bien de moi, de l'équipe. Donc je fais pareil quand c'est négatif. Je sais que tout le monde a des approches différentes avec ça, et c'est très individuel, mais j'essaye de transformer ça en motivation et quelque chose qui me pousse et qui germe en moi pour que le samedi je réponde présent. Donc voilà, après quand les critiques sont justifiées et tout en restant bienveillante et constructive, il y a aucun souci. Après, Il y a eu par moments certaines critiques qui s'attaquaient directement à pas aux joueurs mais aux hommes et ça c'est plus compliqué à vivre. Moi j'avais pas personnellement connu ça mais voilà, ça c'est toujours les travers des réseaux sociaux et de certains médias. C'est voilà, il faut savoir qu'il y a une ligne à pas franchir et que derrière les joueurs il y a quand même des hommes et il faut voilà prendre conscience.
Je voulais juste revenir sur le match contre l'Italie que tu as manqué parce que tu t'étais blessé en Écosse, mais tu as malgré tout voulu, je suppose, toi être présent, tu as même fait le waterboy. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été finalement au cœur quand même de l'équipe, ça t'a permis de bien remobiliser aussi le groupe pour les 2 derniers matchs? Tu penses que ça a eu son importance, le fait que tu sois avec le groupe et que tu vives cette désillusion, ce match nul presque que tout le monde a vécu comme une défaite au cœur de l'équipe?
Je ne sais pas si ça a aidé, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment vécu cette semaine et ce match. Le match nul, voilà, c'est mon match nul à moi aussi. Donc c'était important pour moi déjà d'être avec le groupe parce qu'un tournoi, ça passe hyper vite. Chaque semaine est hyper importante, donc voilà, c'était important de pas perdre trop d'informations et de continuer à travailler avec eux. Le match a été très compliqué à vivre, bien sûr, mais on a rebondi encore une fois tous ensemble. Et je pense que c'est pas moi qui fais que, mais encore une fois, je pense qu'après ce match, tous les joueurs ont pris leurs responsabilités et ont élevé leur niveau. Et se sont pris à main aussi. Donc ça a aidé. Ça a été vraiment une réponse collective. Ça n'a pas été le staff qui nous a remobilisés, ou ça n'a pas été quelques joueurs qui ont remobilisé tout le monde. Ça a été staff et les 34 joueurs qui se sont pris à main, qui ont fourni des grosses séquences d'entraînement et qui ont travaillé dur. Il me semble que le mardi du Pays de Galles, ça a été une des journées les plus courues depuis 4 ans. C'était là-dessus que c'était hyper intéressant.
Tu as été capitaine de l'équipe en l'absence d'Antoine Dupont. Est-ce que ça t'a donné envie de garder ce rôle-là à l'avenir ?
Il n'y a même pas eu de sujet là-dessus, pour être honnête, ou de questions. Moi, ça fait 4 ans que je suis au service de l'équipe pour gagner. On a une équipe où il n'y a pas d'ego, si on me dit que je suis plus capitaine demain, c'est pas ça qui va me bloquer ou m'empêcher de performer. Donc je serai toujours au service de l'équipe pour gagne.
Mais si on te dit que tu restes capitaine,
ça sera le choix du staff et ça sera une discussion à avoir tous ensemble. C'est encore beaucoup trop tôt pour avoir cette discussion, en tout cas maintenant.
Il y a quelques privilèges quand on est capitaine ou pas quand même?
À part avoir la chambre seule, il n'y en a pas d'autres. Et encore, j'étais seul parce qu'Anthony n'était pas là, sinon je serais resté avec Anto.
Parlons maintenant de La Rochelle. Tu as récemment prolongé jusqu'en 2029, une prolongation annoncée fin février. Tu souhaites faire toute ta carrière à La Rochelle?
C'est trop tôt, c'est beaucoup trop tôt. J'ai signé jusqu'en 2029, j'aurai 32 ans. C'est sûr qu'il ne me restera pas non plus énormément d'années de contrat derrière. J'ai toujours eu aussi cette envie de découvrir un petit peu l'étranger. Après, est-ce que je le ferai, est-ce que je ne le ferai pas, parce que on ne sait pas. Mais c'est sûr que si je ne changerai pas de club pour changer de club ou juste parce qu'il faut changer de club dans sa carrière. Donc si tout est réuni pour que je continue à La Rochelle, je continuerai. Mais ça sera d'abord un bilan à faire avec moi-même, un bilan à faire avec le club, et ensuite ce sera une décision à prendre en commun. Mais en 5 ans, il peut se passer énormément de choses. Donc.
Mais 5 ans, c'est un choix fort quand même de s'engager jusqu'en 2029. C'est loin de 2029. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix fort et à te dire « je reste à La Rochelle parce que c'est La Rochelle, tout est réuni, c'est ça ?» Explique-nous.
Dans le sport, c'est sûr que s'engager sur 5 ans, ça peut être dangereux quand on voit à quel point ça peut aller vite entre une saison et une autre. Mais moi, à La Rochelle, je retrouve un club qui veut tout le temps construire, qui veut tout le temps progresser, qui veut grandir. Un club qui veut gagner absolument. Donc je ne suis pas inquiet pour la suite. Je sais qu'il y a de grosses ambitions ici et qu'ils mettent tout en œuvre pour y arriver. Il y a une ferveur qui est juste dingue. Un club qui a plus de 800 partenaires. Donc vraiment cette sensation de jouer pour une ville, pour toute une région, et pas jouer pour un mécène. Moi, c'est vraiment un côté du rugby qui est important pour moi. Je ne pourrais pas jouer au rugby dans un stade vide. Donc on rajoute à ça le cadre de vie qui moi, me correspond. J'ai tout qui est réuni pour être bien ici. Et on sait que le plus important pour performer au rugby, c'est d'être bien dans sa tête, dans son corps et chez soi.
Il te manque quand même Anto pour partager la chambre. Alors dis-nous quand même si Anto, c'est Anthony Jelon et Antoine Dupont ont quand même essayé de te débaucher pour que tu viennes au Stade Toulousain.
On s'est promis qu'on se retrouverait dans un petit club de fédéral et... Anto et moi, on serait seconde ligne. Je crois qu'il y aurait Cyril Baye en numéro 10. Donc voilà, on s'est fait notre petite équipe pour plus tard.
Pour plus tard. Donc vous jouerez ensemble un jour, mais bon.
si mes genoux veulent bien encore.
Et quand tu as débarqué ici, est-ce que tu t'attendais à rester autant de temps dans ce club?
Pas du tout. Quand je débarque ici, je quitte mes études et je signe 2 ans en espoir. Je ne savais pas du tout ce qu'était le niveau pro, je ne savais pas quel niveau il fallait pour être en top 14. Et je m'étais dit, voilà, je fais mes 2 années en espoir, je donne tout. Et il y a 80% de chances que dans 2 ans, je retourne dans le cursus ingénieur. Et puis au final, tout a été très rapide. On a joué... Première saison, on n'est pas qualifié, pardon. On perd face à Castres, qui eux gagneront ensuite tous les matchs et seront champions. Deuxième saison, il me semble qu'on fait une demi-finale, donc c'était juste énorme. Et ensuite, voilà, la suite on la connaît, on a joué une finale, puis on a gagné les finales et on a été depuis dans une progression. Donc non, j'avais jamais imaginé que je pourrais être champion d'Europe avec La Rochelle un jour.
Et potentiellement triple champion d'Europe.
Et potentiellement triple champion d'Europe.
Ce week-end, donc, retour de la Coupe d'Europe avec donc un déplacement au Cap en Afrique du Sud pour affronter les Stormers en 8e de finale. Vous avez joué là-bas en décembre. Le match avait été compliqué, défaite de La Rochelle. En quoi tu vois que l'équipe est plus forte aujourd'hui qu'en décembre?
J'espère qu'elle est plus forte parce qu'on apprend de nos erreurs. Même si en top 14, on a répété quelques matchs à l'extérieur un petit peu frustrants. Donc voilà, maintenant on rentre dans un rugby qui est différent aussi. On rentre dans des phases finales, des matchs couperés. On sait qu'on a tendance à se réveiller pour ces matchs-là, donc j'espère que ça sera le cas ce week-end et qu'on pourra en tout cas gagner et faire une grosse performance. Je pense que le match de poule, il était à notre portée, mais qu'on l'a perdu, nous. Donc voilà, on sait quand même aussi que les Sudaf ont pas eu de compétition internationale. Ils ont eu tout le temps qu'il faut pour se préparer physiquement pour ces phases finales de Coupe d'Europe. On sait que c'est très dur de gagner là-bas, le trajet. Bon, il y a beaucoup d'excuses à avoir, mais maintenant, nous, on sait aussi que si on est sur nos standards, si on est à 100% de ce qu'on sait faire, on a les capacités de gagner.
Mais ce match-là, il lance vraiment la fin de saison. Parce que en cas de victoire, vous allez enchaîner par un quart de finale de Coupe des Champions, logiquement contre le Leinster, que vous connaissez par cœur. Et puis après, ça va aller très vite. Le top 14 va se terminer. Est-ce que voilà, là, c'est vraiment le point de départ pour faire une fin de saison un petit peu de folie comme vous avez habitué les supporters?
Ouais, c'est le point de départ. On sait que le mois d'avril, voilà, ça commence au mois d'avril. On travaille 8 mois où on suit pas mal et qu'on a des périodes un peu voilà, chargées et compliquées. C'est justement pour pouvoir jouer ces 3 mois qui restent. C'est là qu'on prend tout le plaisir. C'est là que le rugby est beau et qu'on se procure les plus belles émotions. Donc maintenant, nous, on a aussi cette excitation qui monte. Bon, on s'est pas rendu la tâche facile en top 14, donc ça va la rendre d'autant plus chargée parce que tous les matchs seront importants. Mais voilà, on a aussi des retours de blessures qui vont arriver, qui vont amener un petit peu de sang frais dans le groupe. Donc voilà, maintenant je pense que c'est à nous de se lever, de faire en sorte de performer et de vivre une saison, fin de saison excitante plutôt que de subir maintenant.
Ça peut être le déclic un peu par rapport à toute votre première partie de saison où ça a gagné, ça a perdu, les résultats étaient un petit peu en dents de scie. Là, ça peut être le déclic, une victoire en Champions Cup aux Stormers.
Bien sûr, ça peut être un déclic pour la suite. Ça serait surtout un coup de boost au groupe parce que pour être honnête, si on rentre avec la défaite, le trajet retour sera très très long et j'ai pas envie de regarder que ça soit le quart, les demi ou la finale de Coupe d'Europe sur un week-end autour d'un barbecue quoi. J'ai envie de le vivre et j'ai envie que les supporters aussi le vivent avec nous donc l'objectif est clair pour nous maintenant, à nous de mettre tout en œuvre pour pas rentrer frustré avec des regrets.
Ça ressemble quand même au défi ultime d'aller chez les Stormers en 8e et potentiellement une semaine plus tard refaire un déplacement pour revenir en Europe pour affronter le Leinster à Dublin. Il y a pas beaucoup, est-ce qu'il y a pire pour un club quoi?
Ouais, on sait que si on veut aller en finale, ça paraît quasiment impossible. On pourrait avoir Afrique du Sud, Dublin, re-Afrique du Sud et ne pouvait faire. Donc de toute façon il faut prendre les matchs les uns après les autres. C'est des matchs hyper compliqués, ça va être des matchs hyper relevés, donc ça serait la plus grosse erreur de se projeter sur un quart ou... donc déjà aller en Afrique du Sud performer, comme tu dis, peut-être se rebooster aussi et prendre toute l'énergie qu'il y a à prendre pour ensuite enchaîner sur la suite.
Et toi, personnellement, comment tu te sens? Parce que c'est vrai que t'as fait un break, hein, t'as eu ce privilège de faire un break de 2 mois. On a l'impression que pendant le tournoi, on n'a pas forcément senti l'impact. Et c'est maintenant non, que ça doit arriver, justement. C'est maintenant qu'il doit être bénéfique, justement, ton break, pour que tu fasses une fin de saison de dingue, non?
Mon ressenti, c'est que physiquement, je me sens très très bien. Sur la fin de tournoi, j'étais très très bien. Après, voilà, rugbystiquement, il y a eu par moments des petites erreurs, des petits trucs qui ont bloqué. Mais voilà, j'arrive à faire les 80 minutes en étant en forme. J'ai plutôt des bonnes statistiques de course, etc. sur les derniers matchs. Donc je sens que je progresse.
Tu montes en puissance, on peut dire ça.
Et j'espère que je monte en puissance. Maintenant, il faut confirmer le week-end. Donc, j'espère que... En tout cas, mon corps va très bien. Et...
Ça a été vraiment bénéfique. Aujourd'hui, on peut le dire, en tout cas, avec un peu de recul.
Bien sûr, moi, je suis persuadé que ça a été bénéfique. Et, Quand on pense qu'il reste encore 3 mois de saison, ça paraît interminable pour ceux qui n'ont pas coupé depuis juillet dernier, et même qui ont coupé 15 jours en juillet, quoi. Donc on peut dire qu'ils ont enchaîné quasiment 2 saisons.
Et donc, pour finir, on voulait te poser une question. La Rochelle est double champion d'Europe. Le triplé n'a pas été fait depuis Toulon entre 2013 et 2015, mais tu n'as pas encore de bouclier de Brennus. Alors, si tu devais faire un choix pour cette fin de saison entre une troisième Coupe d'Europe et le Brennus?
Si j'avais le luxe de choisir, sauf qu'on n'a pas le luxe de choisir. Donc, je préfère jouer les deux à fond et peut-être finir avec un qu'un sélectionneur. Mais une chose est sûre, c'est que 3 d'affilée, c'est quelque chose d'historique. Si on ne le fait pas cette année, il faudra au minimum attendre 3 ans de plus pour le refaire. Donc,
on a la réponse. on pense deviner la réponse.
Donc si je pouvais, si on pouvait soulever une troisième Coupe d'Europe d'affilée, c'est sûr que ça serait...
On sent que tu veux marquer l'histoire quand même. Marquer l'histoire, c'est quelque chose d'important.
Le club veut marquer l'histoire et je pense que tous les joueurs de ce club veulent marquer l'histoire aussi. Et 3 d'affilée, ça fait partie de l'histoire. Après, maintenant, il faut, comme je dis depuis le début, se donner les moyens. Et il ne suffit pas de le dire. Donc, on a un parcours qui est hyper relevé. De toute façon, si c'était facile, il y aurait eu plusieurs équipes qui l'auraient fait. Donc maintenant, à nous de baisser la tête, de travailler et de donner le maximum pour passer un quart de finale et puis ensuite ainsi de suite, quoi.
Et puis si on a bien compris, en vétéran avec l'équipe que vous aurez, vous soulèverez le bouclier des vétérans normalement, avec Cyril, Anto, etc. Normalement tu pourras un jour soulever le bouclier.
Champion de France honneur ou de série, ouais.
Ça compte au palmarès, hein.
Merci à Grégory Aldrit d'avoir été dans Crunch aujourd'hui. Merci à Yann Sternis et Maxime Rollin pour cette interview. Stormers La Rochelle, c'est donc samedi à 16h. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous lire dans le journal L'Équipe et sur le site internet. Bonne semaine à tous. Salut.